Bonjour et bienvenue dans ce séminaire de recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Je suis Hélène Chauveau, je suis chargée de projet au service Culture, Sciences, Société. Je suis docteur en géographie et j'animerai cette séance aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc pour cette première séance de la saison 2020-2021 qui se situe aussi dans le cadre de la Fête de la Science qui a lieu en ce moment. Alors, je vous partage juste ma petite diapo. Donc ce séminaire de la boutique des sciences, il se place dans l'activité donc du dispositif boutique des sciences, qui est un dispositif de recherche participative qui met en lien la société civile avec le monde de la recherche via des travaux qui sont co-construits avec des associations. Nous proposons donc chaque mois ce temps d'échange de bonnes pratiques et de réflexion méthodologique sur le thème des recherches académiques qui sont co-construites avec des citoyens, dites donc recherche participative. Les séminaires de la saison dernière sont d'ailleurs disponibles sur le site de la boutique des sciences, rubrique ressources et podcasts. Donc voilà, il y en a sur les croisements des savoirs entre agronomes et agriculteurs, par exemple, sur les neurosciences, sur les nanotechnologies. Je vous invite à les réécouter, ils sont disponibles. Et cette année, nous nous retrouverons donc chaque premier jeudi du mois autour d'exemples de recherche participative aussi variés que sur des thèmes comme les rapports police-population, le design, les impacts d'une boutique des sciences, les pratiques au jardin ou encore les instruments de musique, comme vous le voyez dans cette programmation qui est aussi à retrouver sur notre site. Et donc, vous avez là sous les yeux la programmation qui est calée pour l'instant. Pour cette première séance et pour cette rentrée, nous sommes très heureux de débuter avec un thème qui est à la fois central et transversal dans les recherches participatives, à savoir le rôle de la médiation. J'accueille donc Marie-France Mifume. Bonjour Marie-France.
Bonjour Hélène.
Vous êtes donc anthropologue et consultante en médiation scientifique et vous allez nous présenter aujourd'hui vos travaux sur les spécificités de la fonction de médiateur-médiatrice scientifique dans les programmes de sciences participatives. Donc n'hésitez pas, les participants, à poser vos questions sur le chat. Donc vous avez le logo, la petite bulle conversation donc sur laquelle vous pouvez poser des questions à l'écrit. Et puis vous pourrez en fin de présentation aussi, bien sûr, poser des questions à l'oral en réactivant vos micros. Donc je laisse Marie-France se présenter et puis nous dérouler ses travaux avant d'échanger avec nos auditeurs et auditrices. Merci à tous et à toutes d'être là.
Alors, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc, un peu pour présenter un peu mon parcours. Donc, je suis docteur en anthropologie. Donc, j'ai fait une thèse sur un rituel qui s'appelle le bwiti, qui est pratiqué au Gabon. Et donc, j'ai étudié en fait le rôle des expressions vocales, musicales et dansées dans ce rituel qui se déroule sur 3 nuits. Et j'ai montré de quelle manière ces expressions participent à la construction identitaire des initiés dans cette communauté. Après ma thèse, j'ai fait de l'enseignement au Muséum national d'histoire naturelle et à l'Université de Lorraine à Metz en ethnomusicologie. Et j'ai également participé à plusieurs programmes de recherche, notamment sur la question du geste du musicien, où j'ai collaboré avec des biomécaniciens, donc des spécialistes de l'analyse du mouvement, en utilisant en fait de la captation vidéo en 3 dimensions pour analyser le geste du musicien. Et j'ai également travaillé sur les questions d'archives sonores en ethnomusicologie, puisque les ethnomusicologues en fait collectent les musiques. Et maintenant, on a une quantité d'archives sonores de par le monde. Et donc, l'idée, c'est de réutiliser ces archives pour pouvoir maintenant étudier les musiques de façon diachronique, puisque maintenant, on a voilà, du temps qui est passé et qu'on peut étudier ces musiques de façon diachronique. Donc voilà, et depuis 2 ans, j'ai suivi le magistère sciences et techniques dans la société médiation, innovation, culture du CNAM, et où j'ai réalisé un mémoire de recherche sur les questions de médiation et sciences participatives. Et je suis actuellement consultante en médiation scientifique et culturelle, donc je travaille en tant qu'indépendante. Et récemment, en lien avec les sciences participatives, j'ai collaboré et coordonné le développement d'une plateforme collaborative qui s'appelle BiblioJazz, qui est portée par l'Institut Collegium Musicae de Sorbonne Université et où l'idée, c'est d'ouvrir en fait une base de données de référence bibliographique sur le jazz au grand public, mais également que le grand public et les collectionneurs et amateurs enrichissent cette plateforme, enfin cette base de données, pardon. Donc voilà. Donc maintenant, donc je vais vous présenter. Alors je vais faire le partage d'écran, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que c'est bon?
Tout à fait.
Ok. Donc, d'où vient en fait le sujet de mon mémoire sur la médiation et les sciences participatives? Donc, ça a pour origine en fait une interrogation que j'ai eue lors de ma participation à différents séminaires de recherche et journées d'études sur les sciences participatives. Et je me suis interrogée sur la question. Alors, ça ne marche plus. Alors, pardon. Je vais faire comme ça. Désolée. Donc, pour quelles raisons on observe si peu de médiateurs et de médiatrices au sein des rencontres sur les sciences participatives? Donc, les chercheurs éprouvaient également des difficultés autour de la participation et de l'animation, sans pour autant, en fait, relier ces difficultés avec le champ de la médiation scientifique. Alors, d'où viennent ces difficultés? Est-ce que c'est lié au fait que, il y a un manque de connexion entre le monde de la recherche et la médiation? Est-ce que c'est également un domaine qui est encore peu investi par les médiateurs et les médiatrices scientifiques? Donc, j'ai voulu, en fait, analyser la médiation dans deux programmes de sciences participatives et j'ai montré de quelle manière les médiateurs et médiatrices ont un rôle fondamental dans la mise en œuvre des sciences participatives et que ce nouveau contexte et dispositif de participation vient en fait reconfigurer le métier de médiateur et la médiation elle-même. Donc, quand on parle de médiation scientifique, le but, c'est vraiment de questionner la place de la science en société. Les médiateurs sont des acteurs essentiels, en fait, pour faciliter les échanges entre scientifiques et citoyens. Et la médiation est là, en fait, pour soumettre les découvertes scientifiques et leurs applications au débat public, croiser donc les savoirs scientifiques avec les savoirs populaires et endogènes, également développer chez chacun donc, le sens critique vis-à-vis donc, des découvertes scientifiques, mais aussi de ses applications en société. Donc, on peut dire que la polyvalence et l'adaptabilité donc, sont deux caractéristiques en fait, du métier de médiateur. Et donc, le médiateur en fait, possède plusieurs casquettes, qui peut être animateur, concepteur, scientifique, enseignant, etc. Et cette diversité en fait, de dénominations en fait, illustre en fait, une diversité d'activités et des structures qui les mobilisent. Et récemment, donc, pour mieux informer sur ce métier et favoriser en fait la reconnaissance de ce métier, l'École de la médiation donc, a élaboré un référentiel de compétences transversales du métier de médiateur afin en fait d'identifier des compétences socles en fait mises en jeu en fait par les professionnels. Et ils ont identifié quatre grands domaines de compétences qui sont l'animation, la conception de la médiation, enrichir ses connaissances et ses pratiques, et gérer des projets de médiation. Alors, concernant les sciences participatives, donc j'ai repris la définition de la charte signée en 2017, qui est « Les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. » Alors là, on voit bien qu'il y a une distinction qui est faite entre sciences participatives et recherches participatives, ce qui n'était pas le cas dans le rapport Houllier en 2016, où on avait la même définition, mais uniquement avec les sciences participatives. Et donc pour, on va dire, définir un peu ces distinctions de grandes familles de sciences et de recherches participatives, les recherches participatives sont des recherches qui sont réalisées généralement avec des groupes ou des communautés concernées, où les savoirs et savoir-faire de ces communautés sont pris en compte dans la production des connaissances pour répondre à des problématiques locales, avec une logique en fait, de transformation sociale et d'émancipation des communautés, alors que les sciences participatives, eh bien, on recourt à ces dispositifs de participation pour collecter les données à grande échelle, pour assembler des données sur des larges aires géographiques impossibles en fait à obtenir autrement. Et le but est vraiment de produire des connaissances et des indicateurs, notamment sur la biodiversité, par exemple. Donc là, je vais vous présenter donc mon corpus d'études et la méthodologie que j'ai pu utiliser pour cette étude. Et ensuite, je vous présenterai donc comment la médiation et la fonction de médiateur sont reconfigurées par la participation du public amateur. Et ensuite, j'exposerai quelques pistes en fait, de réflexion avant d'aborder les questions. Alors, pour une cohérence et homogénéité des données, donc j'ai choisi deux programmes qui sont LinkenGo et Vigiciel, parce qu'ils partagent en fait des critères communs. Tous les deux sont portés par des institutions de recherche. Les types de données concernent en fait l'observation de l'environnement. La collecte des données est réalisée sur tout le territoire national. Et la participation des publics concerne en fait l'observation sur le terrain et l'intégration des données en ligne. Et ces deux programmes mobilisent des partenaires relais. Alors, le programme LinkenGo est un programme coordonné par Laure Turcati, qui est ingénieur de recherche à Participité, qui est l'observatoire de l'environnement urbain à Sorbonne Université. Et ce programme est également coporté par Tela Botanica, qui est un réseau de botanistes francophones. Et alors, donc, le protocole de recherche, donc, se base en fait sur l'identification des espèces de lichen sur les troncs d'arbres en ville. Donc le but, c'est d'aller identifier 3 arbres en ville, espacés de 2 à 10 mètres, avec une circonférence supérieure à 30 cm. Et donc, on va poser une grille de 5 carrés sur le tronc d'arbre pour identifier les espèces de lichen. Et ça, ça doit être fait sur chaque face de l'arbre, donc sur la face nord, est, ouest et sud. Et donc, le but de ce programme, c'est de contribuer au suivi des lichens afin de mieux comprendre en fait leur écologie, mais surtout leur sensibilité à la pollution atmosphérique. Puisque le but est vraiment de tester les lichens comme des bio-indicateurs de la qualité de l'air en ville. Alors, le projet Vigiciel est un projet coordonné par Asma Steinhauser, qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle en collaboration avec l'Observatoire de Paris, l'Université Paris-Saclay, Universcience, l'Université Grenoble-Alpes et l'Université Aix-Marseille. Et donc, au sein de ce programme Vigiciel, on a 3 missions qui sont proposées aux participants. Tout d'abord, témoigner de l'observation d'un bolide via un formulaire en ligne. Si on a vu un bolide dans le ciel, eh bien, on va sur le site pour répondre à plusieurs questions pour témoigner de cette observation. Et cette observation humaine, en fait, vient compléter l'observation du ciel qui est réalisée 24 heures sur 24 par un réseau de 100 caméras et de radios qui sont établies sur tout le territoire national. Et donc, une fois que le signalement qui est fait de possibles en fait, météorites qui sont tombées et que le calcul a été réalisé sur la trajectoire, donc où est-ce qu'est tombée la possible météorite, eh bien, la seconde mission, c'est d'aller chercher cette météorite sur le terrain. Donc, les personnes qui vont sur le terrain sont déjà formées à la reconnaissance des météorites. Et la troisième mission, c'est sur le site Vigicrater, et le but est d'identifier des cratères d'impact à partir d'images satellites. Alors, donc l'objectif donc, de mon étude était de caractériser en fait la fonction de médiateur au sein de ces deux programmes. Et pour cela, donc, j'ai mis en place une grille d'analyse pour étudier en fait les différentes dimensions de cette fonction. Donc tout d'abord, qui en fait réalisait cette fonction? Est-ce que c'est des personnes ciblées ou est-ce que c'est un peu plusieurs personnes? Quelles sont en fait les différentes actions, missions et de médiation? Avec quels outils et quels supports l'animation et la médiation sont-elles réalisées? À quelles étapes du projet les médiateurs interviennent en tant que médiateurs? Comment est intégrée la médiation scientifique à l'échelle locale, c'est-à-dire quel est le rôle des partenaires relais dans ces programmes? Et enfin, dans quel but la médiation scientifique est mise en œuvre au sein des projets. Alors, mon approche est une approche anthropologique et je me base sur une analyse qualitative des retours d'expérience des médiateurs et des médiatrices et des documents qu'ils ont produits. Et donc, mon corpus d'analyse se base sur des entretiens semi-directifs que j'ai réalisés avec 5 personnes pour le programme Leak & Go et 6 personnes pour le programme Vigiciel. Et chaque entretien a duré à peu près 1h30 à 2h. Et donc, j'ai transcrit ces entretiens. Et les documents de médiation produits, je les ai récupérés via les sites Internet et via les coordinatrices des programmes. Donc, dans ce corpus, il s'agissait de comprendre en fait à quel moment, selon quelle motivation, difficulté est visée, en fait, la médiation est produite, pour pouvoir ensuite catégoriser les actions et les discours et enfin caractériser la fonction des médiateurs et des médiatrices. Donc, ce qui ressort en fait de cette étude, c'est que il y a une reconfiguration de la médiation qui se fait par deux éléments, la participation des publics et l'intégration de la médiation à un programme de recherche. Et cette reconfiguration se situe tant au niveau des outils, des actions de médiation, des visées, ainsi que des postures des médiateurs et des médiatrices. Donc, en reprenant le référentiel transversal des compétences réalisées par l'école de la médiation, donc là, j'ai précisé un peu les compétences spécifiques en fait des médiateurs dans le cadre des projets de sciences participatives. Donc, pour la gestion de projet, donc le but c'est vraiment de faire participer les publics dans la collecte des données. Donc, le projet de médiation en fait doit être pensé et intégré dans le programme de recherche. La gestion de projet, c'est vraiment coordonner les acteurs, donc les chercheurs, les participants et les médiateurs, ainsi que l'ensemble des actions de médiation à chaque étape du projet, c'est-à-dire de l'élaboration de la problématique jusqu'à l'interprétation des résultats. Ensuite, la conception des médiations se fait donc en rapport avec la participation et le programme de recherche. Il faut également animer le programme en favorisant donc les échanges entre les chercheurs et les médiateurs, donc à travers des rencontres physique, mais aussi à travers les outils et médias adaptés via Internet, et également communiquer autour du projet, donc communiquer, sensibiliser et fidéliser la participation des participants. Au niveau de la conception de la médiation, le but c'est vraiment de rendre compréhensibles les objectifs scientifiques. Et donc pour cela, il faut d'abord cibler les types de publics. Est-ce qu'on s'adresse au grand public, à des publics scolaires ou encore à des publics amateurs. Et après, l'idée, c'est vraiment de co-construire le protocole de recherche, puisqu'à la base, les protocoles de recherche sont élaborés par les chercheurs pour les chercheurs. Et donc là, il faut vraiment penser de quelle manière on va pouvoir adapter ces protocoles. Donc d'une part, pour trouver un compromis entre le fait que ce soit un protocole qui soit réalisable par les participants, qui sont à la base non scientifiques, mais également que les données, une fois collectées, soient validées scientifiquement, scientifiquement. Et donc, c'est en cela que, pour chaque programme, en fait, l'organisation de phase test de ces protocoles a été très utile et pertinent pour valider ces protocoles. Ensuite, il faut également créer et adapter des outils pédagogiques, parce qu'en fait, même en adaptant le protocole de recherche, ça ne suffit pas. En fait, il faut également fournir et créer surtout des outils pédagogiques, notamment pour le programme Vigiciel. Ils ont conçu une mallette pédagogique pour les médiateurs des partenaires relais, où ils proposent différentes activités, notamment la reconnaissance des météorites, donc reconnaître une météorite d'une roche terrestre. Et pour le programme Leak & Go, eh bien, ils ont dû élaborer une clé de détermination, donc un arbre de décision, pour pouvoir accompagner en fait et aider les participants à identifier quelle espèce de lichen ils avaient en face de quoi. Il faut également adapter les outils de saisie de données en ligne pour pas perdre les participants dès le départ et voire même au cours du projet, ce qui est arrivé notamment pour Leak & Go, où ils n'avaient pas dès le départ une interface ergonomique à la fois ergonomique pour les participants, mais aussi efficace en fait pour récupérer les données pour les chercheurs. Donc, maintenant qu'ils ont la collaboration avec Tela Botanica, qui propose justement des outils efficaces, donc là, ça leur a permis justement de un peu de mieux motiver et encourager en fait la participation. Et enfin, adapter sa médiation à partir des outils proposés. Ce qui est intéressant également, c'est que, outre la médiation qui était conçue par l'équipe projet, eh bien, les partenaires relais ont pu en fait se réapproprier et adapter leur propre médiation à partir des outils qui étaient proposés. Alors, les deux programmes ont proposé des formations pour former les médiateurs, pour les sensibiliser aux sciences participatives déjà, et aussi pour les former au sujet d'études et au protocole de recherche. Et donc, la formation, en fait, permet de s'assurer que les médiateurs référents aient les mêmes outils et bagages pour faire participer les publics. Et via ces formations, en fait, les animateurs m'ont dit qu'en fait, ça leur a permis d'enrichir leurs connaissances scientifiques, d'élargir leurs compétences aux sciences participatives et également d'initier de nouvelles collaborations, notamment avec des enseignants de l'éducation nationale pour proposer de nouvelles activités pour les scolaires. Au niveau de l'animation, donc l'idée, c'est donc de sensibiliser les publics aux sciences participatives, donc leur expliquer le protocole de recherche, de collecte de données plutôt, et les outils associés. Donc, pour l'ICANGO, c'était organiser les sorties sur le terrain, accompagner les publics dans la collecte des données, s'assurer des aspects matériels sur le terrain, mais aussi des aspects matériels pour l'interface de saisie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, la fonction d'animation est exercée par les partenaires relais, mais également par les participants. C'est-à-dire que dans les deux programmes, il arrive que certains contributeurs deviennent acteurs du projet et incarnent le rôle d'animateur en, par exemple, organisant des sorties sur le terrain ou également en répondant aux questions des autres participants sur les forums. Donc, parmi l'ensemble des actions de médiation réalisées, j'ai identifié en fait plusieurs postures possibles des médiateurs. Donc, ils peuvent être incarnés par une seule personne, mais aussi par plusieurs personnes. Donc, le rôle de coordinateur pour gérer le programme, les acteurs et les actions de médiation. Le rôle d'animateur pour pouvoir animer des ateliers face public, mais également animer la communauté de participants ou encore le réseau de partenaires relais. Communicant pour donc sensibiliser les publics aux sciences participatives et toucher et fidéliser les participants. Facilitateur, médiateur pour permettre les échanges entre chercheurs et participants et trouver un compromis entre les parties. Expert pour pouvoir expliquer les objectifs scientifiques, la démarche, les connaissances nécessaires à la participation. Et comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir aussi adapter le protocole de recherche avec les chercheurs. Et enfin, accompagnateur pour permettre en fait aux participants de devenir en fait autonomes et acteurs du projet. Alors, la médiation a également plusieurs particularités. Alors, je parle de médiation distribuée puisqu'elle est distribuée entre différents acteurs, entre les chercheurs, participants et médiateurs, entre les différents partenaires relais. C'est une médiation distribuée également à travers différents médias, que ce soit les sites web, réseaux sociaux, newsletters, mais aussi les rencontres physiques. Et également une médiation distribuée au niveau des différentes actions qui en fait correspondent aux différentes postures que j'ai pu présenter précédemment. À travers donc cette médiation distribuée, j'ai pu observer trois types de médiation. Tout d'abord, une médiation sur les sciences participatives, donc vraiment expliquer ce que sont les sciences participatives, une médiation sur les outils et les méthodes scientifiques nécessaires pour le programme scientifique, et une médiation autour des connaissances scientifiques nécessaires à la collecte des données dans les deux programmes. Alors, la stratégie de mettre en place en fait un réseau de partenaires relais a été essentielle pour chaque programme, puisque les structures locales en fait connaissent leur public et leur territoire. Et selon leurs pratiques et usages, en fait, ils ont intégré au sein de leurs activités les problématiques et les contenus spécifiques au projet. Donc, cette stratégie est finalement bénéfique pour l'équipe projet, mais surtout pour les partenaires relais, puisque ça leur a permis d'initier de nouvelles collaborations, de créer de nouveaux contenus de médiation, d'acquérir en fait de nouvelles compétences et connaissances, de gagner une certaine légitimité auprès des collectivités locales et également de renforcer leur attractivité auprès des publics.
Peut-être une petite question de compréhension à ce stade, si ça ne vous dérange pas. Par partenaire relais, on entend essentiellement des acteurs associatifs, par exemple, ou voilà, oui, pour visualiser un petit peu de qui il peut s'agir.
Effectivement, les partenaires relais, ce sont des associations, par exemple pour le programme Vigiciel, c'était des planétariums, des musées, des associations locales. C'est au niveau des structures locales, associatives, collectivités locales. Donc, ces partenaires relais, en fait, sont, comment dire, donc c'est bénéfique, en fait, pour ces partenaires et de renforcer, en fait, leur attractivité auprès des publics. La médiation est également, en fait, transformée au niveau de sa temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'inscrit dans un temps long, donc celui de la recherche et celui du processus scientifique. Ça nécessite en fait d'entretenir une motivation et une fidélisation assez longue des participants, plus longue en fait qu'une animation phase publique. Donc il faut vraiment coordonner les actions de médiation à chaque étape du projet et accompagner les participants à chaque étape, former les partenaires, communiquer autour du projet. Donc ça nécessite vraiment de prendre en compte cette temporalité longue. Donc, à travers ces deux programmes, on a pu observer donc, un apport essentiel de la médiation scientifique dans les dispositifs de sciences participatives. Et ces dispositifs de sciences participatives, ont reconfiguré la médiation scientifique. Donc, ça nécessite en fait une réflexion sur la mise en place en fait, de la médiation et également une formation des acteurs à ces différents enjeux. Alors, les dispositifs de participation ne sont pas nouveaux dans le monde de la médiation, puisqu'on a maintenant les Escape Games, les Fab Labs, Living Lab, les jeux de rôle, muséographie participative, donc, qui constituent en fait de nouveaux enjeux en fait, pour la médiation, qui viennent également reconfigurer la médiation scientifique et constituent des nouveaux lieux de partage et de co-construction des connaissances. Et en fait, les sciences participatives font partie de ces dispositifs de participation et ont un intérêt de plus en plus fort du côté des musées, des lieux de médiation, qui vont les intégrer de plus en plus au sein de leur propre site, de leurs activités et expositions. Donc, ça permet aux musées d'élargir leur attractivité par de nouveaux canaux et pour les programmes de sciences participatives, de toucher un plus large public. Donc, pour synthétiser, les médiateurs et médiatrices ont un rôle fondamental dans les sciences participatives. Ce nouveau dispositif de participation vient reconfigurer le métier et la médiation elle-même. Et donc, pour moi, les sciences participatives, c'est vraiment une synergie entre médiation et recherche qui ne peut avoir lieu sans une pédagogie sur les sciences participatives et une dynamique initiée entre chercheurs et participants. Et donc, du coup, la médiation doit être pensée en lien avec le processus de recherche. Il faut également former les médiateurs, mais également les chercheurs et les participants aux sciences participatives. Et le fait de s'appuyer sur un réseau de partenaires relais, donc les associations locales, ça permet d'ancrer localement les programmes, mais aussi de construire en fait une communauté active de participants. Alors, qu'en est-il du côté des recherches participatives? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une distinction entre sciences participatives et recherches participatives, où les objectifs sont légèrement différents. Et donc, qu'en est-il de la médiation du côté des recherches participatives? Et donc, pour avoir des premiers éléments de réponse, j'ai donc interviewé deux chargées de projet de la boutique des sciences de Lyon, donc Hélène Chauveau et Pauline Brière. Et j'ai pu identifier des éléments communs avec les programmes Vigiciel et Licango, notamment la question donc du médiateur comme un rôle clé dans la mise en relation entre chercheurs et citoyens. L'objectif également de transformer les regards des partenaires, c'est-à-dire eh bien, de montrer aux participants que les sciences sont accessibles, et également du côté des chercheurs, de montrer une légitimité des participants à produire des connaissances scientifiques. Donc le but, c'est vraiment de créer un lien durable entre science et société, et pour cela, la médiation est mobilisée pour pouvoir sensibiliser les acteurs aux sciences participatives, les former et les accompagner dans les programmes. Alors, également des difficultés communes, notamment avec la question des financements peu adaptés, avec pour conséquence un manque de ressources humaines. Et mon hypothèse, c'est que ce manque de ressources humaines est lié à un manque de reconnaissance du métier de médiateur, qui est lui-même lié à une méconnaissance, je pense, du métier de médiateur dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde professionnel en général. Et également un manque de reconnaissance des sciences participatives dans le monde de la recherche et un manque de connexion finalement entre les deux mondes professionnels. Alors maintenant, si on va voir du côté des science communication, donc il y a un livre qui est paru en 2018, Citizen Science Innovation in Open Science, Society and Policy, qui apporte un éclairage assez exhaustif sur la pratique des sciences participatives dans 16 pays. Et souligne en fait plusieurs points communs avec ce que j'ai pu observer, notamment sur la question de la reconfiguration de la communication scientifique avec la participation et l'engagement des citoyens, que le fait que la communication doit être conçue et élaborée en fonction des objectifs scientifiques du projet, et qu'il faut également communiquer activement autour du projet pour sensibiliser, mais aussi pour motiver les participants, et la nécessité aussi de consacrer du temps et des ressources matérielles et humaines et intégrer donc les compétences en communication au sein des programmes. Et donc le deuxième exemple, c'est le Smith Research Group de l'Université libre de Bruxelles qui en 2019 a proposé un guide sur la communication scientifique dans les programmes de sciences participatives. Et ce livre, en fait, est basé sur une enquête auprès des acteurs des programmes de sciences participatives en Belgique et sur les expériences des médiateurs. Et il a été conçu, en fait, vraiment pour aider les porteurs de projets à élaborer un plan de communication. Alors, dans ce livret, il conseille donc de ne pas sous-estimer le temps à consacrer à communiquer avec les publics. Et pour eux, 95% des citizen science, c'est la communication. Donc, il souligne vraiment le fait que c'est un processus permanent qui suit toutes les étapes du processus scientifique. Et ils définissent également trois types de fonctions pour mener à bien, selon eux, un programme de sciences participatives en lien avec la communication scientifique. Donc, le community manager, qui est l'animateur, on peut dire, de communauté de participants, science trainer, un formateur scientifique, et science communicator. Donc, ces deux exemples montrent bien qu'il y a des réflexions qui sont actuellement menées dans le domaine des sciences de communication et qui viennent conforter en fait ce que j'ai pu observer au sein des deux programmes étudiés et donc sur une nécessaire réflexion sur la reconfiguration du métier de médiateur dans le cadre de ces dispositifs de participation. Alors si on regarde également d'autres initiatives, par exemple du côté de Tela Botanica, qui est une, donc comme je disais tout à l'heure, une association de botanistes francophones qui a pour but en fait de mobiliser un vaste réseau de personnes pour monter des projets collaboratifs et pour produire des connaissances sur la flore. Donc la vocation de cette structure en fait, c'est vraiment de favoriser l'échange d'informations, d'animer des projets via la plateforme et de produire des données libres de droit à l'ensemble des botanistes. Et donc, la stratégie de cette structure, c'est vraiment de se centrer sur la communication et l'animation pour motiver les amateurs à participer, pour qu'ils soient plus nombreux, plus compétents et plus fidèles dans le temps. Et l'animation se base sur les réseaux nationaux et locaux d'animateurs existants, donc les associations, les clubs, les collectivités. Donc, pour à la fois réduire le coût de l'animation, mais aussi pour constituer vraiment des communautés actives pour les programmes. Donc, les animateurs, en fait, une fois formés, eh bien, vont favoriser la coopération et le partage des données, accroître leur capacité d'intervention, en fait, pour les nouveaux programmes de sciences participatives et mieux préparer les publics à y participer. Donc là, en fait, l'IKENGO, qui a intégré l'année dernière Tela Botanica, fait partie de plusieurs programmes en lien avec l'étude des arbres. Et donc, cette structure, en fait, centre son action sur l'animation, la communication et la mutualisation des outils au sein du réseau. Et je pense que là aussi, c'est une réflexion à faire aussi sur cette question de mutualisation des outils qui sont développés dans différents programmes et qui pourraient être réutilisés pour d'autres programmes. Et c'est ce qui est la démarche qui est faite par le Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université, où ils viennent de créer, donc il y a un an, le portail Sciences Ensemble, qui répertorie en fait les différents programmes de sciences participatives au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Donc ce portail est aussi un centre de ressources et un réseau métier pour favoriser les échanges et les collaborations entre les personnes impliquées dans ces programmes. Et ils viennent également de créer un centre de compétences en sciences participatives qui s'appelle Mosaïque. Et le but, c'est vraiment de mutualiser ces compétences pour développer des sites de participation dans divers domaines, en s'appuyant donc sur les méthodes de coproduction de données des sciences participatives. Donc voilà, l'idée c'était, à travers ce travail, c'était vraiment d'apporter quelques réflexions et des outils pour mieux envisager en fait la médiation scientifique dans les sciences participatives. Donc voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, c'était très clair et très riche et illustré avec des exemples assez concrets et à la fois des grandes lignes générales qui en ressortent. C'est fort intéressant. Je vais peut-être passer la parole s'il y a quelques questions. Vous pouvez utiliser la petite icône lever la main ou directement ouvrir votre micro et votre caméra si vous voulez prendre la parole. Pas tous en même temps, sinon moi j'ai aussi des questions. Donc je vais peut-être lancer et puis attendre que si des participantes et participants veulent lever la... Je vois que Claire Bréchard a une question. Allez-y.
Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Moi je découvre un peu du coup aujourd'hui un peu en détail comment fonctionnent les sciences participatives, et j'ai l'impression d'après ce que vous décrivez que ça marche très bien pour les sciences dites dures, mais je me demande comment ça peut fonctionner et si ça existe déjà pour des travaux qui sont plus de l'ordre des sciences humaines et sociales. Comment est-ce qu'on fait pour impliquer des gens dans la collecte de données, dans des projets de recherche en sciences humaines et sociales?
Alors, merci pour la question. Effectivement, c'est une question que je me suis posée également. Bon, moi, venant de l'anthropologie et ayant coordonné et développé en fait ce projet de plateforme collaborative sur les références bibliographiques sur le jazz, donc c'est assez spécifique. Ce domaine-là, donc on se confronte déjà à la question des communautés, donc est-ce qu'on veut ouvrir au grand public ou est-ce qu'on s'adresse plutôt à des amateurs spécialisés. Donc ça, c'est déjà des questions qu'il faut vraiment, je pense, se poser dès le départ, en fait, avant même de créer, en fait, et de commencer à élaborer un programme de sciences participatives. Mais je pense que Je ne suis pas sûre que ça soit plus compliqué après, en tout cas, il me semble, puisqu'il y a toutes les recherches-actions qui ont été développées, en fait, sont dans ce sens. Alors après, est-ce que ça veut dire... Franchement, c'est des questions que je me pose, donc je n'ai pas vraiment de réponse définitive, mais je pense qu'il y a de plus en plus, en tout cas, de projets de sciences participatives dans le domaine des sciences humaines, de l'art, et notamment je peux vous conseiller, si vous êtes intéressé par ça, d'aller voir donc le réseau Participarc, qui est un nouveau réseau donc, qui travaille sur les questions de sciences participatives dans les recherches culturelles. Donc voilà, c'est un réseau qui a été mis en place par le Muséum national d'histoire naturelle et par le, à la demande du ministère de la Culture. Et donc voilà, donc ils ont fait un rapport déjà. Donc si vous allez sur le site, alors je ne sais pas si vous voulez, participe en fait avec un tiret ARC, A-R-C, voilà.
Je mettrai le lien dans la conversation. Florence Bélaen aussi avait une question, une remarque.
Il y a un problème de micro.
Oui. C'est pas sur moi alors.
Voilà.
Yes. Je me transcris.
Oui.
Ouais. C'était pas du tout audible, je suis désolée. Peut-être en attendant, j'ai vu une question sur des exemples de recherche participative en sciences de l'éducation. Est-ce que...
Alors là, non, j'avoue que j'ai pas sciences de l'éducation. Non, là de tête, non, ça me dit rien. Enfin, non.
On avait présenté la boutique des sciences, on avait fait un séminaire l'année dernière sur un projet sur l'attention à l'école, l'éducation à l'attention.
Oui. Oui.
Qui s'appelle ATOL. Alors, c'est des neuroscientifiques, mais des neuroscientifiques qui travaillent avec des enseignants de primaire. Donc, voilà, ça relève aussi un petit peu de la science de l'éducation. Après, voilà, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Alain aussi qui nous demande si les références et les liens seront disponibles. Oui, je pense qu'on mettra.
Oui, je peux mettre.
Sur le site avec le. Avec le document. Je vois Monsieur Adebeck aussi qui a fait une remarque pendant la présentation sur le fait que les enseignants sont débordés. Alors, je ne vois pas trop le lien avec la présentation. Voilà, peut-être qu'il veut...
Prêt à intervenir, si vous voulez.
Oui.
Vous m'entendez bien ?
Oui.
Bon, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, le personnel enseignant de l'éducation nationale se trouve dans une situation extrêmement difficile d'exercice de leur métier. Il y a une interférence entre les réformes du ministère de l'Éducation nationale par M. Blanquer, qui posait déjà beaucoup de problèmes, plus le Covid-19 qui vient ajouter un certain chaos dans le fonctionnement des établissements scolaires. Ce que je voulais vous dire, et surtout ce que je voulais vous demander aux médiateurs scientifiques qui s'approchent du milieu scolaire, est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu des échos de l'effet de ces difficultés sur la médiation scientifique proprement dite. C'est-à-dire que, à mon avis, un enseignant est déjà un médiateur scientifique. Il est, de par sa profession, de médiateur scientifique entre la recherche et les élèves, donc qu'il a en charge. Voilà, je vous ai posé cette question. Est-ce que vous avez vu de votre côté des échos sur ces problèmes internes à l'éducation nationale?
Merci pour la question. J'ai pas eu d'écho en particulier puisque moi je suis pas vraiment en contact avec des enseignants de l'éducation nationale. Enfin si, j'en connais, mais pas par rapport à ces questions de programmes de sciences participatives. Mais effectivement, bon, la situation sanitaire et puis la réforme de l'éducation nationale, effectivement, voilà. N'aide pas à pouvoir réaliser tout ce qu'on peut faire avec les élèves. Et donc, bon, après, la question de la médiation, généralement, c'est en lien ou pas avec les programmes scolaires. Hein. Ça peut être
Justement, je n'ai pas parlé précisément de lien avec les programmes scolaires, parce que le but, en principe, des programmes scolaires, c'est de permettre à des jeunes personnes de s'intéresser aux sciences en général et d'y prendre du plaisir. C'est en ce sens-là que je voulais intervenir sur les écoles et leurs problèmes. Des professeurs, quand ils tentent quelque chose, ça leur demande du temps. Et le temps, c'est la chose la moins répandue à la disposition des enseignants aujourd'hui. C'est le temps. le temps est tellement réduit par les diverses activités et ennuis et soucis des collègues que dans beaucoup de cas, les programmes, le contenu des programmes scolaires ne peut pas être bouclé dans l'année scolaire. Mmh. C'est la première année où ce fait se produit aussi souvent dans un aussi grand nombre de cas, de situations.
Mmh. Tout à fait. Je crois que la question posée, là, elle est un petit peu plus large, serait que le sujet d'aujourd'hui. Mais
elle est très large. Le système scolaire n'ouvre pas assez les élèves à l'envie de science. Actuellement.
Tout à fait, mais je pense que c'est ce que Marie-France aussi exprime quand elle parle de l'invisibilisation aussi des médiateurs et médiatrices et les enseignants en premier titre. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est les premiers médiateurs et médiatrices scientifiques et aujourd'hui, ils n'ont plus forcément le temps et les moyens de l'être, c'est sûr. Et nous, on observe aussi dans nos services une décroissance des projets avec les enseignants parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus forcément le temps et les moyens de le faire, mais on essaye quand même de continuer à travailler.
Vous avez bien raison.
À ce niveau-là. Merci. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est par rapport à la médiation distribuée dont vous avez parlé. Du coup, j'ai cru comprendre que cette médiation distribuée, ça décrit un petit peu le rôle de... Donc, le fait que le rôle de médiation en fait soit pas forcément porté par une personne, mais en fait distribué. Mais du coup, parfois la médiation, elle se fait en fait sans que personne ne l'incarne. Et du coup, est-ce que ça peut arriver qu'en fait elle se fasse pas ? Enfin, est-ce que du coup le fait qu'il n'y ait pas une personne en titre entre guillemets qui soit chargée de la médiation et qui permette du coup d'objectiver un petit peu ce rôle-là et ces pratiques-là, est-ce que ça peut freiner aussi, peut-être pas dans les programmes que vous avez observés où ça a l'air plutôt bien rodé, ce rôle-là de la médiation, mais est-ce que peut-être vous avez observé d'autres projets de sciences participatives où il n'y a pas cette incarnation de la médiation et où du coup, potentiellement, ça pose des problèmes dans la transmission du savoir?
Alors oui, effectivement, en fait, l'intérêt de la médiation distribuée, c'est que cette médiation puisse être faite par plusieurs acteurs, par les différents acteurs même, les chercheurs, les participants et les médiateurs. Mais quand effectivement, la médiation n'est pas incarnée par une personne destinée à cette fonction-là, eh bien, on voit effectivement, généralement, comme je disais, dans les séminaires de recherche ou dans les journées d'études, c'est la plupart du temps, c'est les porteurs de projets, donc des chercheurs, qui viennent présenter les problèmes concernant la participation, l'animation. Et donc là, ce qui n'est pas explicite, en fait, c'est qu'en fait, le chercheur, il ne peut pas faire tout, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être animateur, il ne peut pas être communiquer, enfin il peut le faire, mais tout dépend du temps. Là, on revient avec cette question du temps. Et effectivement, déjà, les programmes de sciences participatives sont des programmes lourds à gérer, lourds à mettre en place. Et donc, effectivement, si on n'identifie pas dès le départ un besoin du côté de l'animation, du côté de la participation, par des personnes qui seraient formées ou qui peuvent faire ce métier-là, eh bien on arrive à des situations où on a des programmes de sciences participatives qui n'attirent personne en fait. On va avoir deux personnes qui vont participer au programme. Donc voilà, donc c'est effectivement des problématiques des problèmes en fait qui sont identifiés autour de cette question de la médiation. Mais alors après, la question effectivement, c'est comment intégrer cette médiation, comment former les chercheurs, comment former les médiateurs, à quel niveau on veut que la participation soit réalisée. Est-ce qu'on veut l'étendre à un millier de personnes ou est-ce qu'on veut rester avec une petite communauté? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont liées en fait.
À quel degré aussi on participe? Est-ce que c'est juste la collecte de données ou est-ce que c'est comme dans les recherches participatives, un degré plus voilà, de participation à la problématisation, etc., où là, ça nécessite aussi d'autres postures et d'autres connaissances. On a une question d'Adrien qui nous demande est-ce que l'on retrouve parmi les participants aux sciences collaboratives des motivations récurrentes sur le pourquoi ils ont décidé de participer et pourquoi ils continuent ou non à participer ? Alors, je crois qu'il y a des recherches totalement là-dessus.
Vous avez sans doute eu les cours. Alors, récurrente, je ne sais pas, mais c'est vrai que, en tout cas, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des autres porteurs de projets, c'est qu'on essaye de connaître les motivations, mais généralement, on est souvent à côté, en fait, enfin, en tant que porteur, ou voilà, où on se pense à, ben, par exemple, pour un programme de Vigie Nature, Spipol, qui est en fait photographier les insectes pollinisateurs. Par exemple, ceux qui sont les plus motivés, enfin, en tout cas en grand nombre, c'est pour faire des photos, en fait. Donc, c'est les photographes et pas forcément des personnes intéressées directement par les insectes pollinisateurs. Donc, voilà. Donc, en fait, on part sur des objectifs scientifiques, des motivations qu'on pense liées, par exemple, à la nature ou liées à tel sujet d'étude. Mais finalement, on va avoir des participants qui vont avoir d'autres motivations pour pouvoir participer. Et après, sur le pourquoi ils ont décidé et pourquoi ils continuent, alors là aussi, il y a eu des études de fait sur le fait que, par exemple, il y a eu des programmes qui ont élaboré la problématique avec les participants. Et en fait, ceux qui ont aidé et qui ont contribué à cette élaboration ne sont pas ceux forcément qui vont ensuite participer dans le programme. C'est-à-dire qu'ils vont être super intéressés pour participer à l'élaboration des objectifs scientifiques, mais qui finalement vont pas être intéressés à participer après dans le programme. Donc voilà, c'est plein de, en fait, une diversité, en fait, de réalité et de motivation.
J'avais entendu parler, c'était le côté convivial aussi, tout bêtement. Le projet de recherche participative qu'avait noté, notamment, c'était un projet de participative sur l'archéologie à Bibracte, en Bourgogne. Et quand ils avaient fait passer un questionnaire aux participants, c'était essentiellement l'envie de se retrouver, de passer du temps sur ce lieu un petit peu exceptionnel, et puis de passer des bons moments collectivement, le côté vie associative aussi qui motive les habitants, et puis l'envie d'apprendre, en fait, juste des participants, quoi. C'était assez...
Tout à fait, oui, effectivement, là, oui. Le côté collectif et associatif, oui, rentre en compte.
Tout à fait. J'ai aussi une remarque par rapport à la différence que vous avez assez clairement édictée entre recherche participative et sciences participatives. C'est vrai qu'en recherche participative, on essaye d'aller... c'est une autre posture, une autre démarche, et notamment dans le rapport au savoir des participants, on va dire, qui est davantage, je pense, enfin moi, dans les différences que je verrais, vous avez parlé des points communs entre les médiateurs, médiatrices de sciences participatives et de recherche participative. Moi, j'ai l'impression qu'en recherche participative, il y a aussi une question de différence de rapport avec le savoir avec lequel on cherche à croiser le savoir scientifique. Et qu'il y a vraiment cette notion qu'il n'y a peut-être pas, mais peut-être que je me trompe et que je me méprends, mais qu'il y a peut-être moins dans les sciences participatives un petit peu de base, et notamment sur la collecte de données, mais qui est vraiment une démarche d'empathie et de compréhension du savoir du participant qu'on a en face de soi et qu'on essaye de faire participer au projet de recherche. Et du coup, là, c'est vraiment, pour le coup, une compétence plus spécifique et une posture qui est pour moi vraiment très différente de la médiation scientifique, parce qu'en fait, elle est pas du tout dans l'idée de faire passer un savoir de la science vers les usagers, mais plutôt d'essayer d'établir des allers-retours et des connexions et du bouleversement aussi dans le rapport à la science et au savoir. Et du coup, ça peut provoquer des choses assez, assez complexes, je pense. Et ça, 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 Ça m'intéresserait en tout cas s'il y a des recherches qui sont menées dans le futur plus spécifiquement sur cette posture-là qui est encore plus invisible, j'imagine, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à creuser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, on a une question de Maxime. Vous avez relevé un certain nombre de postures de médiation. Avez-vous remarqué des activités autour de la mise en valeur des connaissances des participants, donc des savoirs d'expérience, en tant que savoir différent du savoir scientifique? Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, du coup, ça me dit bien.
Alors, la mise en valeur des connaissances des participants, en tout cas, pas dans les deux programmes. Alors après, bon, ça dépend de quelle manière on parle de mise en valeur. Est-ce qu'on parle de mise en valeur par rapport à la reconnaissance, en fait, de la participation des participants dans le programme, ou est-ce qu'on parle vraiment de... moi, je pense que déjà, par exemple, aux publications communes qui sont faites, notamment intégrer la communauté de participants dans les publications scientifiques, ça peut être une forme de mise en valeur des connaissances. Alors après, ça dépend dans quel domaine, mais comme si on revient avec les recherches, plus recherche-action, où on va croiser en fait les savoirs endogènes populaires avec les savoirs scientifiques, c'est comment en fait valoriser ou partir en fait des connaissances, par exemple des agriculteurs ou des semenceurs, pour élaborer des nouvelles semences pour voilà. Donc alors des activités autour, en tête j'ai pas ça, mais effectivement il y a quand même des choses qui sont faites autour de ça, mais c'est pas encore assez, il y a pas encore assez de réflexion. Et puis il y a la question des open badges aussi. Je sais qu'avec le dôme, où l'idée c'est vraiment de le dôme à Caen, l'idée c'est vraiment de développer la question de la reconnaissance en fait des différents acteurs de la société civile vis-à-vis des connaissances qu'ils ont pu acquérir ou des connaissances que eux apportent aux sciences et aux recherches et à l'innovation.
Ça me rappelle aussi, si je peux me permettre d'orienter Maxime, sur un de nos séminaires de l'année dernière sur savoir d'agronome et savoir d'agriculteur, justement, qui était animé par la sociologue Hélène Brive, qui est sociologue à l'ISARAC, et donc à un institut de recherche en agronomie à Lyon. Et c'était intéressant parce qu'elle disait que elle, en tant que sociologue, bon, qui est très minoritaire, hein, du coup, au sein de l'ISARA, où il n'y a que des ingénieurs en agronomie, sa posture sciences humaines était vraiment mal comprise, parce qu'en fait, justement, les agronomes avaient vraiment l'habitude de travailler avec les agriculteurs. C'est quelque chose qui est historiquement assez ancré, en particulier dans cette institution-là. Donc, ils font de la recherche participative depuis des dizaines d'années, mais ils ne pensent pas du tout ils ne pensent pas cet objet. C'est-à-dire qu'ils en font, voilà, au quotidien. Les agriculteurs travaillent avec les agronomes, etc. Mais ils n'ont pas du tout une posture réflexive là-dessus. Ils réfléchissent pas particulièrement sur ce que ça implique, les questions spécifiques que ça pose, et encore moins les questions de médiation que ça pose, quoi. Et du coup, elle faisait donc sa recherche en sociologie, donc Hélène Brive, je vous invite à aller voir ses travaux sur ce rapport-là et comment se construit ce rapport entre agronomes et agriculteurs, et que justement, il y a cette espèce d'angle mort de la médiation nécessaire en fait à la bonne conduite de cette collaboration, et du coup c'est assez intéressant. Je pense que c'est un champ qui va largement peut-être avancer et se développer à mesure que les recherches participatives aussi sortent un petit peu peut-être de l'ombre. J'avais une question, je vais me faire le relais de Florence Bellaen, qui du coup m'a envoyé sa question par écrit parce qu'il y avait des problèmes de son. C'est par rapport à la notion de... c'est un débat un petit peu récurrent sur les dispositifs de sciences participatives, mais est-ce que les institutions qui proposent ces dispositifs de recherche participative ne se dérobent pas un petit peu avec cette caution citoyenne grâce à la science participative? Est-ce qu'ils ne se dérobent pas un petit peu de certains débats publics qui peuvent être un petit peu compliquées pour elle. Et du coup, voilà, s'échappe un petit peu de ces débats-là en disant, ben, regardez, on travaille avec des citoyens, donc notre science, elle est participative, elle est citoyenne, quoi. J'imagine que ces débats-là vous sont pas étrangers également, et que peut-être le médiateur, il a un rôle aussi là-dedans, voilà, dans l'instrumentalisation.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, bon, moi, les deux programmes sont plus des programmes de sciences participatives, mais il y a toujours l'interrogation sur, voilà, quand on utilise des outils de participation, est-ce que c'est effectivement pour vraiment faire participer les participants et vraiment avoir leur savoir, leur contribution, et pas juste, utiliser les participants pour la science et pas pour leur propre, on va dire, empowerment, comme on peut dire dans la recherche-action. Mais, donc voilà, effectivement, et toutes ces questions-là, en fait, on se les pose. Enfin, en tout cas, les porteurs de projets, la plupart du temps, se les posent. Mais on peut avoir aussi des risques d'utiliser de la science participative à tout va pour justement... faire croire qu'on fait de la participation. Mais c'est des risques, il faut effectivement qu'il y ait des médiateurs, des personnes qui soient là pour pouvoir un peu veiller à ce qu'on ne tombe pas justement dans la manipulation. Mais c'est toujours un peu touchy comme question.
Par rapport à ça, et puis les participantes, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton lever la main si vous avez d'autres questions. Moi, c'est une question par rapport à la formation du coup de ces médiateurs, médiatrices. Est-ce que peut-être à travers les différents profils que vous avez rencontrés, est-ce que les médiateurs, médiatrices de sciences participatives ont une formation scientifique, forcément? Si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est nécessairement dans la science dont ils font la médiation? Du coup, est-ce que, voilà, avec un doctorat, je me prends un exemple, en géographie, on peut faire de la médiation en physique alors qu'on n'y comprend rien? Et est-ce que, si oui, quelle problématique ça peut poser, ou quels atouts ça peut donner aussi? Et puis, deuxième question sur cette formation, est-ce qu'ils reçoivent, ou est-ce qu'il faudrait qu'ils reçoivent une formation plus spécifique? Ça, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être creuser un petit peu là-dessus, une formation plus spécifique sur justement les enjeux de la participation, et notamment les enjeux politiques et éthiques et même philosophiques que cela pose. Est-ce que ça existe? Est-ce que j'ai cru comprendre que dans Mosaïque, par exemple, peut-être ils proposaient des éléments par rapport à ça? Est-ce que c'est le cas en dehors de ce genre d'espace où on peut discuter de ça?
Oui, alors par rapport à la formation, effectivement, en fait, il y a une formation qui est au Muséum national d'histoire naturelle, qui est proposée par Anne Dozier et Laure Turcati sur les sciences participatives, et sur une semaine complète, en fait. Effectivement, il y a les questions d'éthique, en fait, qui sont imposées, notamment par rapport aux données personnelles, mais pas que, notamment par rapport aux plateformes collaboratives ou la saisie des données. Mais par rapport à la question de la formation, en fait, ça y est, j'ai oublié la question.
La formation initiale, oui, des
médiateurs.
Oui, voilà,
médiateurs, en fait, les personnes que j'ai interviewées avaient des formations un peu diverses. Déjà, la plupart n'avaient pas forcément une formation en médiation scientifique. C'était la plupart des personnes qui avaient eu un master en biologie ou en physique ou en doctorat ou même pas de formation. Mais l'idée, c'est effectivement que je pense, pour ces programmes de sciences participatives, c'est à la fois avoir des connaissances quand même de base sur certains sujets, mais après, la question, c'est beaucoup plus effectivement la formation sur ces questions de participation, sur ces questions d'enjeux, sur ces questions de compromis entre chercheurs et participants, enfin, toutes ces problématiques-là qui ne sont pas forcément abordées nulle part, on va dire, dans les formations, on va dire, initiales scientifiques.
D'accord. Je vais passer la parole à Mylène Thou, qui a demandé à prendre la parole pour poser une question.
Oui, bonjour. Je souhaitais savoir si vous aviez des exemples de projets de recherche participatifs qui ont très plus et qui ont pour but aussi d'alimenter des réflexions de politique publique locale. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est proche de la recherche-action, hein, je ne sais pas, mais par exemple, s'il s'agit de nourrir des acteurs publics sur comment mettre en place une politique publique sur, autour de l'habitat, du logement ou de la mobilité ou de l'aménagement d'un espace public. Voilà, comme exemple.
Alors,
et oui, et autre question, est-ce qu'un chercheur peut être médiateur?
Alors, il y aurait ça.
C'est une vraie question pour moi. Oui.
Il y a eu justement toute une journée d'études organisée par Universcience la semaine dernière, justement sur la question du chercheur en tant que médiateur. C'est une vaste question. Moi, je pense que les chercheurs peuvent être médiateurs, enfin, sont des médiateurs. Après, il y en a qui n'ont pas forcément les compétences. Après, la médiation, c'est aussi un métier, une formation, un métier en soi. Donc, je pense que tout le monde peut faire un peu de médiation. Après, voilà, à quel niveau on se situe. Mais je pense qu'effectivement, même du point de vue de la formation en recherche, je pense que ça serait utile que les chercheurs, même s'ils ne veulent pas forcément faire de la médiation, en tout cas les étudiants soient formés à la médiation scientifique. Et pas que la vulgarisation, mais vraiment à ces questions de sciences en société qui sont vraiment utiles en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que le chercheur reste dans son laboratoire, etc. Enfin, ça, c'est plus possible. Et donc, pour revenir à la question de politique publique locale, alors, j'ai un exemple, mais alors, je ne me rappelle plus exactement. C'est un projet qui a été réalisé autour de la mobilité, justement, en Île-de-France. Donc, ça s'appelle, il faudrait que je retrouve les références. Et donc, l'idée, c'était de questionner, en fait, la question de la mobilité en Île-de-France. Et ils ont fait participer, en fait, les habitants de chaque département. Et l'idée, c'était de co-construire, en fait, une exposition sur la question de la mobilité. Donc voilà, et à la fois que ça soit participatif dans la construction en fait de l'exposition, mais aussi que pendant l'exposition, il y ait localement en fait des actions menées autour de la mobilité par les habitants, par les quartiers, et également au cours de l'exposition que ça soit assez interactif aussi. Donc il y a eu des témoignages. Des enregistrements qui ont été réalisés. Enfin, bon, il y a pas mal de choses. Donc, là, je peux mettre aussi les références. Je peux transmettre les références si vous voulez. Donc, ça, c'était un projet qui a été réalisé, oui, par une association, mais je me rappelle plus exactement du nom.
Oui, il y a pas mal de projets en développement local. Après, ça s'appelle souvent plus recherche-action. Pour citer qu'un exemple, le CIRAD, par exemple, qui est un organisme de développement sur les liens nord-sud, fait beaucoup de recherches participatives, oui. De recherche-action, et avec des actions très concrètes sur le terrain en termes de politique de développement, notamment dans les espaces ruraux, dans les villes. Donc, je vous invite à aller voir aussi le CIRAD. Ils ont notamment un site à Montpellier, mais il y a quelques exemples dans ce sens. Je vais repasser la parole à Monsieur Adebeck qui a redemandé la parole pour poser une question.
Oui, c'était pour répondre à plusieurs questions sur la formation des médiateurs. D'abord, une expérience personnelle au sein d'une association qui est une association extraordinaire en astronomie. Et qui s'appelle le comité de liaison enseignant-astronome. Cette association est formée de personnes de tous horizons culturels scientifiques, sans exception, de l'instituteur au professeur d'université. Tous les étés, cette association organise une école d'été d'astronomie dans laquelle il y a à la fois des conférences et voire même des petits cours d'astronomie ou de physique ou de chimie liés à l'astronomie par des professionnels de la recherche, des vrais de vrais. Par exemple, une personne qui a participé à l'équipe qui pilote le robot qui circulait sur la planète Mars, qui s'appelait Curiosity, et qui est venu nous faire deux conférences absolument extraordinaires. Et au milieu, et dans, parmi les ateliers, il y a des personnes qui sont simplement institutrices ou instituteurs et qui proposent des activités d'initiation à l'astronomie à leurs élèves ou à d'autres publics. C'est une association extrêmement ancienne. Elle publie tous les trimestres une petite revue qui s'appelle « Les cahiers de Clairaut » et qui sortent de leur presse, de leur imprimerie à chaque solstice ou à chaque équinoxe. Bien. Alors, en ce qui concerne la formation des médiateurs, moi, j'ai plutôt une question à poser. Est-ce que beaucoup de médiateurs scientifiques sont en relation personnelle, j'entends, parce que dans le cas des établissements scolaires, c'est très difficile, je m'en ai expliqué, de relations personnelles avec des enseignants pour mettre au point des médiations nouvelles ou pour perfectionner les médiations en cours ou des médiations passées. Est-ce que vous connaissez beaucoup de cas? Est-ce que c'est fréquent?
Des enseignants
Des chercheurs qui s'associent à des enseignants pour proposer des productions sur la toile ou en présentiel devant du public.
Il y a des initiatives. Alors après, je ne vais pas… Mais
je pose cette question parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour pouvoir moi-même intervenir en tant qu'enseignant retraite, justement. J'ai cherché depuis plusieurs années et ça ne marche pas. Je n'ai pas réussi, voilà.
Pour intervenir en tant que médiateur dans une association, par exemple, de médiation scientifique?
Le CLEA, c'est la seule pour le moment que je connaisse.
Il y en a plein, ça dépend dans quel domaine vous voulez. La fête de la science est essentiellement animée par des associations de ce type-là. Il y a beaucoup d'enseignants et d'anciens enseignants parmi les personnes qui proposent ces choses-là, oui, c'est vrai.
Et les programmes de sciences participatives, c'est la même idée, hein. C'est ouvert à tout le monde. Et donc les personnes qui veulent y contribuer peuvent participer de différentes manières.
Ça dépend du territoire où on se trouve après, mais c'est vrai qu'il y a quand même...
Effectivement, peut-être aller vers les associations qui vont après permettre de relayer ça.
Oui. Oui, c'est sûr.
En tout cas, je puis vous dire qu'en physique, j'ose affirmer que tout le monde peut tout comprendre.
Oui, c'est
l'expérience en soutien scolaire d'abord qui me l'a démontré, et ensuite deux expériences avec des petites conférences que j'ai données à Paris, ici ou là, devant des publics très divers.
Très bien.
Je l'ai fait trop peu souvent, malheureusement. Je vous remercie.
Merci. J'ai peut-être une dernière question, moi, et puis on clora, sauf si y a encore une main qui se lève. C'est peut-être une question plus personnelle, voilà, il n'y a pas de souci si vous souhaitez pas forcément y répondre, mais je me pose un peu la question, peut-être par rapport à votre parcours et aux différents, à la vue que vous avez aussi de ce milieu de la recherche, puisque vous êtes aussi docteur en anthropologie, il me semble. Le fait d'être consultante autonome, enfin je ne sais pas comment on dit, mais autonome en médiation scientifique et culturelle, comment ça vous fait voir un petit peu cet enjeu justement de la reconnaissance de la médiation? Est-ce que vous avez l'impression que, bon, certes, il y a des manques et un problème d'invisibilisation et auquel vous essayez en partie de remédier avec votre travail, mais est-ce que quand même on va vers du mieux et est-ce que ce travail-là et cette compétence-là est de plus en plus reconnue? Visiblement, il y a quand même un fleurissement des projets de sciences participatives, la médiation scientifique, on en entend aussi de plus en plus parler, mais est-ce que vraiment ça dénote d'une attention particulière et est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a moyen voilà, de faire ça de manière relativement pérenne, est-ce qu'il y a des réseaux qui sont suffisamment constitués, est-ce que peut-être des lois récentes vont améliorer ou au contraire rendre plus difficile ce rôle-là de la médiation, enfin voilà, je vous laisse un peu ouvert sur cette question-là de l'état des lieux en fait, des freins actuels, des freins ou leviers actuels à l'amélioration de la place de la médiation dans ces projets-là.
Alors, vaste question. Mais oui, je pense que ça va de mieux en mieux. Après, je pense qu'il y a de plus en plus une reconnaissance de ce métier-là dans les différentes structures, que ce soit du côté des musées, mais aussi du côté du monde de la recherche. Après, comme on le disait tout à l'heure, le côté enseignant, ils n'ont plus le temps d'enseigner. Dans la recherche, vu le contexte actuel, les chercheurs aussi ont moins le temps de participer, de faire de la médiation. Donc, je pense que c'est par la formation, notamment des étudiants, qu'on pourra en fait changer un peu, pas forcément les mentalités, mais également les pratiques, la manière de faire de la recherche. Et puis je pense aussi qu'avec les questions de participation, les enjeux de participation, les nouveaux dispositifs, le monde de la médiation aussi se transforme également. Et puis avec le contexte qu'on a, la crise sanitaire, des fake news, etc., on se rend compte que voilà quoi, qu'il y a vraiment un besoin, mais qu'il va falloir trouver en fait les modalités, les moyens pour au moins apporter un peu de réponse à ces problématiques-là. Et concernant des lois qui apparemment, donc il y a eu par rapport à la loi LPPR, des amendements sur les questions de l'Agence nationale de la recherche où 1% du budget devra être alloué à tout ce qui est autour de la médiation scientifique. Donc voilà, donc ça passe par l'obligation à, mais voilà, mais je pense que oui, il faut, moi c'est un peu le but, c'est voilà d'essayer de faire le lien entre la recherche et la société, et je pense qu'on en a vraiment besoin dans tous les domaines, quoi, que ce soit la recherche participative, la science participative, la recherche fondamentale aussi. Donc voilà, ouais, je pense que il y a beaucoup à faire encore.
Je vais passer la parole à Adrien et puis je vais clore après la session. Adrien, qui avait une dernière question.
Oui. Alors moi, du coup, c'était pour savoir si sur le modèle un peu qu'on a pour la science participative, on pourrait imaginer qu'on l'ouvre aussi à ce qui est de l'industrie. Par exemple, en ayant besoin de petites mains en réalité pour entraîner des jeux de données sur des IA ou sur des algos type deep learning. Et il me semble que ça existe déjà. Et donc, du coup, je voulais savoir un peu comment ça se formalisait, comment les gens étaient motivés ou rétribués pour consolider en fait un logiciel qui va servir à un but lucratif derrière. Sur lequel ils n'ont pas forcément de retour. Enfin, j'imagine qu'ils font ça gratuitement et je voulais savoir un peu comment ça s'analysait, comment ça se comparait ce principe de distribuer des petites tâches pour entraîner des IA ou à tout le monde pour de l'industrie ou pour de la science. Voilà, merci.
Merci, oui. Effectivement, c'est une problématique très intéressante et aussi les questions de rétribution ou pas des contributeurs en fait. Est-ce qu'on va payer les contributeurs à faire de la science participative? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils le font gratuitement ou est-ce qu'on va payer à faire des petites tâches? Et la deuxième question, effectivement, c'est par rapport à des programmes de sciences participatives qui vont être beaucoup plus sur la question des sciences fondamentales, enfin de la recherche fondamentale, quand il s'agit de tester et de faire apprendre à une IA, pour l'améliorer, pour qu'elle soit efficace et pour après que ça soit sur le marché. Ben là, effectivement, la question se pose sur la question dont on parlait tout à l'heure, sur la question de la manipulation. Voilà. Est-ce que déjà les contributeurs ont été mis au courant dès le début que le but premier, c'est effectivement que ça soit après commercialisé? Comment rétribuer? Enfin, il y a toutes ces questions-là qu'on retrouve dans d'autres types de recherche-action aussi, sur les questions des données personnelles. La question des savoirs aussi, qui peuvent être aussi des savoirs endogènes, qui peuvent être notamment avec les brevets pharmaceutiques, hein, tout ce qui est savoirs locaux qui peuvent être ou pas réutilisés ensuite par les entreprises pharmaceutiques. Donc on a ces questions-là aussi dans la recherche fondamentale. Donc c'est des questions en fait éthiques liées à la recherche. Qu'il faut se poser et qui sont aussi qui sont aussi en fait à se poser pour les sciences participatives, quelles qu'elles soient, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
C'était une vaste question, donc pas évident d'y répondre, mais merci. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses et puis pour cette présentation qu'on retrouvera du coup sur le site Boutique des Sciences. Je mettrai en ligne cette présentation, ce PowerPoint avec le podcast aussi de l'enregistrement qu'on est en train de faire de ce séminaire. Je vous invite aussi également, si ça vous intéresse, à visiter notre site pour découvrir les offres de stage et les projets 2021 de la Boutique des Sciences. Donc nous, on fonctionne par stage. On fait faire des stages à des élèves de Master 2 en immersion dans des associations pour co-construire des réponses à des questions de recherche que se posent des acteurs associatifs. Donc on a des projets notamment en lien avec ce qui a été demandé là, au fil du séminaire sur on a des projets sciences de l'éducation, on a des projets développement local, on a des projets plus sciences exactes, mais on est quand même majoritairement en sciences humaines. Donc si ça vous intéresse d'aller voir tous les projets qu'on a pu mener, qui sont des petits projets de recherche, puisque c'est des projets d'élèves de Master 2 sur 6 mois, mais qui sont quand même des projets de recherche participative où nous, on a un rôle de médiation important en tant que Boutique des Sciences. Ils sont tous disponibles sur le site, tous nos projets qu'on a menés depuis 2014. Il y a aussi donc les prochains rendez-vous des séminaires Boutique des Sciences, avec notamment le prochain rendez-vous qui aura lieu le 5 novembre, qui sera en physique à Lyon et retransmis en ligne également sur Policité, qui est une recherche participative sur des jeunes qui ont travaillé sur les rapports police jeunes de banlieue à Vaux-en-Velin et qui ont fait vraiment une recherche qui est super intéressante, vraiment co-construite entre policiers et habitants des quartiers. Et aujourd'hui, par exemple, ils donnent des cours dans des écoles de police. Donc voilà, c'est une sorte de résultat assez fou et improbable d'une recherche participative, mais voilà, qui a fait avancer aussi cette question-là profondément liée à la pratique sociologique qu'ils ont pu découvrir dans ce cadre-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête de la science aussi, notamment pour ceux qui sont dans le Rhône. C'est encore jusqu'à dimanche. Et puis merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce séminaire. Je vous remercie. Très bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée, merci.
Merci de la réponse.